Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au refus du travail dans l'autonomie italienne. Alors, l'autonomie italienne, c'est un mouvement qui a balayé l'Italie à peu près de l'année 1968 jusqu'à 1978-1980, et la répression du mouvement suite à l'assassinat de Moro, et puis la défaite finale de la grève de Fiat en 1980. C'est un mouvement qui a été extrêmement puissant, beaucoup plus important d'une certaine manière dans le temps que le mai 68 français. On a parlé de mai rampant italien. Il y a eu plusieurs scansions, où à chaque fois c'était des grèves très importantes, des occupations d'usines gigantesques comme l'usine de Mirafiori, de la Fiat à Turin, qui s'est traduit par des manifestations très importantes, par la commune de Bologne en 1977, dont nous fêtons les 40 ans, où pendant deux jours, la police s'est fait virer de la ville par les autonomes italiens, qui ont finalement été... et Bologne a finalement été reprise par les chars d'assaut. Donc c'est un moment très, très important de l'histoire des luttes contre le capitalisme. Et c'est un moment qui peut nous inspirer, en tout cas c'est ce qu'on pense dans cette émission. Alors, ici on va parler simplement d'un aspect de l'autonomie italienne, qui est le refus du travail, à la fois dans la théorie et en acte, dans les pratiques. Et pour ce qui est des événements en général, on reportera à l'ouvrage de Alessandro Stella, des années de rêve et de plomb, dont on trouvera une note de lecture sur le site. On trouvera également Autonomie, Italie, les années 70 de Marcello Tari, même si les deux ouvrages, hein, ceux de Stella et de Tari, posent certains problèmes. Alors, aujourd'hui, pour parler du refus du travail dans l'autonomie italienne, nous recevons Oreste Scalzone, qui a été un important protagoniste de l'autonomie italienne, notamment au sein du groupe Potere Operaio, et pour ce qui est de son récit un peu des événements, on consultera utilement Oreste contre la montre, qui est son récit un peu des événements année par année, de 1960 jusqu'à 1978, sur le site Lundi Matin. Et pour approfondir et compléter ce qu'il va dire aujourd'hui, on lira notamment de lui deux textes, Politique ou révolution, et écologisme et autonomie, avec Lucia Martini, dans un ouvrage collectif dirigé par Henri Lefebvre et publié en 1990 aux éditions Sileps Periscope. Et on lira aussi, écrit cette fois-ci avec un de ses camarades, La révolution et l'État, publié en 2000 aux éditions Dagorno.
Avec Paolo Persichetti.
Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord de la critique théorique du travail qui est au fondement et aux origines, d'une certaine façon, de l'autonomie italienne, qui la précède déjà dans le temps et qui, d'une certaine façon, ce qui en fait son intérêt, rompt un peu avec l'apologie d'une grande partie des intellectuels marxistes du travail.
étant donné que j'ai mes forces, tout le temps probablement sans réussir, d'être bref, rapide et concis, et que je suis pris tout le temps par les sentiments du contraire, que c'est pas assez, qu'il faudrait beaucoup plus de ces digressions qu'on me rapproche, beaucoup plus des notes, pas musicales, mais de bas de page ou d'annexes, etc. Et que c'est toujours, c'est comme si j'étais hanté par un scrupule des hostilités, etc. En me rendant compte que ici, on est dans le cadre d'une émission, et que donc, il faut essayer aussi, non pas de parler dans une prétendue langue commune, finie pour être de la vulgarisation fade, mais quand même avoir une espèce de préoccupation de recevabilité. Toute une série de références peuvent résulter cryptiques. J'essayerai d'être simple quelque part, mais la simplicité, c'est un résultat, hein. Donc, je voudrais commencer par, justement, par la perception qui était très répandue et très majoritaire, même dans les mouvements ouvriers, dans les, surtout les vieilles générations d'ouvriers, des prolos, mais après renouvelées par transmission idéologique, je dis idéologique, pas théorique, etc. Donc avec une signification négative du mot idéologie, au sens de Marx, pas au sens de la récupération en positif de ces termes qui avaient été faits par Lénine, l'idéologie prolétarienne, etc. Repris un peu par, même par la grande majorité à un certain moment des gauchistes, je voudrais essayer de rappeler pour démarrer la perplexité qu'un type comme moi, au début, les antennes comme ça, avaient par rapport à des expressions type lutte contre le travail et refus du travail. C'est un élément de témoignage réfléchi. Je ne vais pas glisser dans de l'autobiographisme, mais étant, disons, à l'époque, un jeune communiste d'une ville ouvrière comme la mienne qui s'était plongé dans la jeunesse communiste, personne n'est parfait, et à ce moment-là les couvents passaient ça quand j'avais à peine 13 ans, et après des grandes émeutes qui avaient traversé l'Italie l'année 60, et ayant été avant donc jeune communiste, toujours un peu impatient, comme on le disait, et puis en ayant rapidement, comme un peu tout le monde, et en étant rentré en route de collision, et étant puis dans les années, les premières années de la fac, etc., aussi en, déjà à la fin du lycée, un espèce d'irrégulier des communistes indépendants, chien sans collier, comme on disait, j'étais très mouvementiste dans les luttes à Rome, etc., mais pas cassé dans un groupe spécifique, un peu transversal. Je vais dire que quand, tardivement, après de retour de France où j'étais venu en mai 68 avec d'autres, et par la transmission faite par mon camarade, qui reste toujours un frère, Franco Piperno, des articles de Mario Tronchi qui constituaient les éditoriaux de la revue Classe Operaia, Classe Ouvrière, entre 62 et 64, qui suivaient la série de l'autre revue, Quaderni Rossi, Cahiers Rouges, avec des figures comme des théoriciens, mais aussi des militants, comme Raniero Panzieri, et puis Mario Tronti, Romano Arcuati, Toni Negri, Gaspare De Caro et beaucoup d'autres. Quand j'avais flashé sur l'éditorial, notamment au début, du numéro 1 de la revue de Mario Tronti, le recueil après c'est dans opéraille et capital, ouvrier capital, qui vient d'être réédité récemment en France. Eh bien, le titre « Lutte contre le travail » m'avait fait un peu tiquer. Et encore plus après, la formule, si vous voulez, plus provocatrice, notamment attribuée à Tony Negri, « Refus du travail ». Et j'avais une espèce de réaction perplexe. Dans ma tête, ça revenait aussi toute une série d'éléments d'idéologie du travail, d'un vieux ouvrier professionnel comme mon grand-père paternel, de beaucoup de militants que j'avais connus au port des aciéries de terre. Qu'est-ce que c'est? Cette image, comme si c'était une espèce d'éloge de la paresse, mais pas au sens de brillant pamphlet de Lafargue, mais comme l'idée d'une utopie, on peut se nourrir par la manne, je sais pas par quoi. Et donc, tu vois, j'ai un peu connu ce type d'interrogation. Donc, au lieu de me lancer dans un tentative qui serait toujours insatisfaisant de faire un raccourci théorique, chronologique ou pas, je vais ici fournir dans cette première partie les arguments que après un agitateur dans nos journaux qui était après 69, dans le sillage de la mouvance opéraïste, la classe avant et puis potere opéraio, je faisais souvent des pages un peu de tentatives de traduction compréhensible pour ce qu'on pouvait considérer un sens, je ne dis pas commun, mais majoritaire chez ce que je me permets d'appeler la camaraderie, ou pour être auto-ironique, les révolutionnaires moyennes, voilà, de la rue. Alors, j'ai utilisé ce type d'argument. D'abord, il y a une question terminologique, et quand même les mots sont importants. Donc, on va voir, on peut chercher d'abord chez Marx, mais pas seulement. Et bien, par exemple, en allemand, il y a deux mots, Arbeit et freie Aktivität. Dans le grec ancien, il y a deux mots, poiesis et praxis. Donc, quand vous dites que le travail, c'est le propre de l'essence humaine, ça adressé aux syndicalistes, aux socialistes, aux communistes, aux travaillistes de tout poil, et que vous utilisez les mots valeur du travail déjà d'une façon truquée, parce que si on le prend dans sa formulation, chez Marx, qui reprend ça, si c'est pour ça, de Ricardo, des classiques, valeur travail, valeur du travail, ça signifie valeur d'échange de la marchandise, force de travail. Point. Donc, vous avez à la disposition d'autres mots. Donc, si vous acharnez à vouloir utiliser les mots travail, après qu'on vous a dit que ça vient de tripalium, instrument de torture, que c'est le même mot qui désigne, fait allusion à la mort, le travail de deuil, ou le travail de la, qui précède l'accouchement. Donc c'est quand même un mot qui désigne une souffrance. Et si vous voulez utiliser ça quand on vous dit, il y a aussi d'autres mots. On pourrait parler d'activité, non? Comme propre de la dite espèce spécialisée dans la parole et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est pas si anodin cet acharnement chevronné à vouloir parler de travail. Première, puce à l'oreille. Deuxième, de toute évidence, le capitalisme, c'est une société du travail. Et c'est pas, évidemment, on peut faire toutes les subtilités qu'on veut, mais disons, ce qui va sous le nom d'extraction de la plus-value. Dans un point de vue classique, on peut pas tirer de la plus-value par un ordinateur ou par un mulet. Mais au fond, pourquoi? Parce que les propres, je pense, de l'espèce humaine, c'est bien le plus précieux qui se consomme, c'est le temps de vie. Donc, pour aller vite, donc c'est les propres travail, il peut y avoir eu travail esclave, il y a eu tellement de formes, puis il y a le travail salarié. Mais travail désigne toujours dans ses différentes formes, même dans les prochaines néo-esclavagistes qu'on va voir, mais ça c'est un autre discours, c'est une activité sous commandement, une activité dépossédée de son résultat, on dit, Marx dit, le travail vivant, et que après, il trépasse un travail cristallisé, mort, pour avoir une deuxième, entre guillemets, vie de marchandise, mais une fois qu'il est mortifié, mortiféré, mort, il s'érige comme un cauchemar contre les travailleurs vivants. Donc, je vais dire, mais même si on voit la mystique, l'idéologie, les monuments, tu les trouves spécialement poussés dans les fascismes ou dans les socialismes capitalistes d'État, les socialismes réels staliniens, dans les cartes de la CGT de début, l'apologie, l'idéologie du travail, et même pour toute forme de libéralisme, de capitalisme, le travail est central. C'est leur nécessité vitale tirée du travail, et maintenant ils ont beaucoup de choses à faire là, la critique de la valeur et de la fin du travail, ils essayent de les soutirer partout, je ne sais pas. Par exemple, quand on discutait, ça tu vois les digressions, la Constitution italienne, il y avait le PC avec toute son idéologie dans l'Assemblée constituante qui voulait mettre l'Italie en République démocratique, bon d'accord, des travailleurs. Et après la médiation c'était fondée sur le travail, même pas des travailleurs, non, même des travailleurs, tu comprends, mais fondée sur le travail. Donc, qu'est-ce qu'on a discuté là-dessus? La moindre des choses que vous devriez admettre, je parle comme à des hypothétiques agitateurs syndicaux devant Zanusine ou Coco qui parle, c'est que alors là, il y aurait un point dans lequel vraiment on est totalement homologique, on partage les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes modes de vie, de pensée, de forme de vie, etc. Troisième argument, oh, tu sais, j'ai pensé, je m'illusionnais que des arguments comme ça faisaient mouche rapidement. C'est, malheureusement, là j'ai dû déchanter. Mais il y a un autre truc. J'avais lu à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, un article dans notre journal Potere Operaio, donc c'était moi que je m'en occupais, mais envoyé par Ferruccio Gambino, qui est un camarade. Et c'était un texte sur le, guillemets, vol, ou le fait de subtiliser l'information ouvrière. Et là, il décrivait combien il y a une espèce de course-poursuite, combien des micro-gestes de refus du travail pour respirer, pour ouvrir les ports de l'usine. Ils sont inventés dans une espèce de truc microlithique par les travailleurs. Mais peut-être ça s'est passé aussi pour les esclaves qui montaient les pierres pour construire les pyramides ou Thèbes de sept portes, comme l'ai dit. C'est-à-dire, combien il y a microphysique interne au travail pour essayer de respirer. Et bien sûr, ça a donné lieu à des procédés qui détournent la norme, à une intelligence qui intervient sur il machinario, comme on dit, le capital fils, la machinerie, pour faire des variations, des trucs, pour permettre, bien sûr que même dans le taylorisme, on te permettait d'aller pisser, non? Il y avait toujours le battipaglia derrière qui rentrait au poste, mais le temps que tu allais pisser, tu revenais. Et c'est vrai que tous ces microphysiques, des micro-gestes, de quoi? De refus du travail, c'était tout de suite observé, même à l'époque qu'il y avait des procédés beaucoup plus rudimentaires, par le type qui a les chronomètres dans les mains, et qui il récupère cette invention ouvrière. Donc le refus de travail, c'est productif, tu vois, et pour la transformer, pour de nouveau alors réaccélérer la cadence, ré-saturer le temps et transformer donc même les refus du travail, ce type de refus de travail, en élément promoteur d'une augmentation de la productivité. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des points, des objectifs de connivence, mais on ne peut pas se soustraire à la force de gravité en se tirant par les cheveux comme le personnage du baron de Munchausen. Donc, troisième élément, pour dire, ou peut-être c'était un peu une préoccupation de légitimer les discours, mais la lutte contre le travail, les refus du travail, d'abord c'est des gens qui connaissent le travail et qui le vit et qui le souffre. Et on pourrait dire, il y a des pages de Marx, mais il y a aussi ce personnage que je trouve une grande femme, qui est Simone Weil, parce qu'on peut considérer qu'elle était mystique, que de Camus à Atlan à Paul VI, il était fasciné et amoureux d'elle, mais on connaît beaucoup de choses intéressantes de cette femme, mais d'avoir voulu aller à l'usine, en minant sa santé, et en crevant à 39 ans de tuberculose, après qu'il avait été avec les Durutiens, les anarchistes en Espagne, qui avaient même critiqué certains aspects. Mais il avait voulu aller, vous dites, pour une espèce de moralisme sacrificiel, mystique. Peut-être, mais le résultat, c'est que ces pages sur la condition ouvrière, matérielle, psychomatérielle, la condition ouvrière, on peut aller voir certains morceaux de La classe ouvrière va au paradis ou Gianmaria volonté extraordinaire, mais on peut les décrire pour l'avoir entendu, mais les pages qu'elles sortent sont, je dirais, définitives. Tout le reste sur la démocratie, les trucs, c'est du pipeau spécifique. Donc voilà, ça pour dire certains arguments de comme un petit soldat divulgateur, je préfère l'agitation au terme propagande, essayer d'appliquer à l'ensemble conceptuel et théorique que j'avais trouvé, qui me venait aussi de cette expérience opériste. On n'était pas les seuls, hein. En même temps, bien sûr que des ambivalences il y a partout. Par exemple, je ne sais pas maintenant à quelle époque remonte toute une série de tests. Par exemple, Bob Black ne travaillait jamais. Alors, je m'arrêterai là pour dire ce qui, d'après moi, c'était les présupposés élémentaires. Après, on verra toutes les pratiques que l'autonomie a déployées pour expliquer ces sources théoriques en ce qui nous concerne, de la critique du travail, pas seulement dire oui du travail salarié, alors avec toutes les idéologies qui disaient il y a un travail différent, il y a un travail, bon, le travail, et si on peut penser à des formes différentes de communautés d'interaction, de liberté, etc., humaine, je ne vois pas si anodin, j'utilise pas les mots innocents parce que ça rentre, évoque d'autres choses, la dialectique innocence-culpabilité, mais c'est pas si anodin s'acharner à vouloir défendre même ces mots, gronde du sang et de la sueur comme travail.
Oui, et d'ailleurs, dans le mouvement de l'autonomie, il y avait, on retrouve dans le livre de Autonomie de Marcello Tari des déclarations assez fortes quand même contre le travail, qui illustrent ce refus du travail dont on va, après une pause musicale, parler justement des pratiques qui étaient déployées. Mais l'Assemblée autonome de Porto Marghera en 1977 avait notamment fait cette déclaration. Le travail n'est pas une façon de vivre, mais l'obligation de se vendre pour vivre. Et c'est en luttant contre le travail, contre cette vente forcée d'eux-mêmes, les ouvriers, qu'ils se heurtent aux règles de la société. Et c'est en luttant pour travailler moins, pour ne plus se laisser empoisonner par le travail, qu'ils luttent aussi contre la nocivité. Car il est nocif de se lever tous les matins pour aller travailler. Il est nocif de suivre les rythmes, les modes de la production. Il est nocif de faire les roulements. Il est nocif de rentrer chez soi avec un travail qui te contraint le lendemain de retourner à l'usine. Et donc là, on voit un petit peu comment est-ce que des jeunes ouvriers italiens pouvaient justement acter d'un refus du travail à partir justement d'une condition de travailleur. Et en fait, finalement, le refus du travail de la part de ces jeunes ouvriers italiens était ce qu'il y avait de plus logique, puisque quand on subit le travail, on est d'autant plus porté plutôt à le critiquer, puisque son étymologie de souffrance là pour le coup se révèle prégnante quoi dans la chair même de ces jeunes ouvriers italiens quoi.
Oui, bah je me permets une petite note de bas de page, mais comme les comités de Porto Marghera, ça a été toujours pour nous un peu la prunelle de nos yeux, et que donc j'y tiens beaucoup. Togliatti, qui avait été le grand maître d'une social-démocratie réelle, d'un stalinisme réel dans les méthodes, qui utilisait un terrorisme intellectuel pas possible, qui tapait sous les doigts de n'importe qui, une fois il avait écrit une grosse bourde dans des thèses, si on voulait faire les pointilleux. Ah, le capitalisme, cette société où le travail est une marchandise. Alors, on aurait pu lui dire, attention, par rapport au texte sacré, que dans leur version largement lassalisée du marxisme institué par Kautsky, c'est pas le travail qui est une marchandise, c'est la force du travail. Et là, il y a aussi, c'est vrai que c'est une facilité, je le corrigerai si c'était en avant, quand on dit on est obligé de se vendre. En réalité, on vend son temps de vie, on vend sa force de travail, en réalité, sa force de travail ou sa prestation. C'est comme si, à vrai dire, on se loue, on se donne en leasing plus que se vendre.
Bon, après avoir du coup présenté ce refus du travail théorisé, donc notamment par Mario Tronti, Tony Negri ou par toi-même, on va faire une pause musicale et ensuite on arrivera sur les pratiques du refus du travail dans l'autonomie italienne.
La classe operaia accompagna l'attacco. Stato e padroni non la possono fermar. Niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Buon lavoro salariato, unitami tutti gli operai. Il comunismo è il nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione. Potere operaio e rivoluzione, bandiera se comunismo sarà. Nessuno tutti o tutto niente, è solo insieme che dobbiamo lottare. O i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare.
Compagni avanti per il partito, contro lo Stato l'armata sarà. Con la conquista di tutto il potere, la dittatura opera.
lavoro non vogliono più. Non c'è da perdere, c'è un intero mondo da guadagnare.
Via dalle mine, prendiamo.